dans le cadre des élections municipales de Strasbourg. Je reçois aujourd'hui Chantal Cutajar, adjointe au maire en charge de la démocratie et candidate à la mairie de Strasbourg, tête de liste des citoyens engagés. Bonjour Chantal Cutajar.
Bonjour.
Bonjour Patrick Cohen, notre cher président qui va co-animer cette émission.
Bonjour Chantal Cutajar, bienvenue dans nos studios.
Alors je vous propose un petit portrait avant le jeu des questions-réponses. Alors ça va être non exhaustif parce que vous avez un parcours très dense. Donc vous êtes né en 59 à Batna en Algérie, que vous quittez pour Strasbourg à l'âge de 5 ans. Vous obtenez un baccalauréat D, un baccalauréat qui n'existe plus, mathématiques et sciences de la Terre, avant d'enchaîner des études de droit qui vous mènent jusqu'à la thèse au titre annonciateur de la société écran. En effet, vous allez vous spécialiser dans la criminalité financière organisée et les sociétés écrans. Entre-temps, vous allez enseigner le droit à la faculté de Guadeloupe et de Guyane. Et c'est à l'obtention de votre thèse que vous enseignerez à la faculté de Strasbourg en qualité de maître de conférence. Vous entrez en politique en 2000 et devenez conseillère municipale sous la mandature de Fabienne Keller. En 2014, sous la mandature du maire Roland Ris, vous devenez adjointe, entre autres sur les questions liées à la déontologie des élus. Et pour finir, vous vivez en concubinage et vous avez deux enfants. Voilà Chantal Cutajar pour votre portrait. Alors on l'a compris, votre lien avec Strasbourg est très étroit. Est-ce que vous pouvez nous parler de la motivation à vous présenter justement à la mairie de Strasbourg ?
La décision de me présenter à la mairie de Strasbourg a été l'aboutissement d'un processus. Ce processus a été initié lorsque Roland Ris, le maire de Strasbourg, m'a confié la délégation à la démocratie locale et à la politique de concertation. Lorsque j'ai pris ces fonctions, j'ai fait le tour de toutes les instances de démocratie locale, c'est-à-dire les conseils de quartier, le conseil des résidents étrangers, les conseils citoyens. Et là, je me suis rendu compte de la gravité de la situation, de la déconnexion totale, du manque de confiance, de la perte de confiance entre les citoyens, les élus et même les agents de la collectivité. Et donc, il n'était pas possible d'essayer de rabibocher. Il n'était pas possible de continuer à chercher des outils. On aborde souvent la démocratie par rapport à travers cette notion d'outils. Le malaise était beaucoup plus important. Et d'ailleurs, les Gilets jaunes qui sont intervenus après, a donné à voir effectivement ce qu'on avait pu déjà voir à Strasbourg et qui couvait. Et donc, j'ai eu l'idée de lancer un sommet citoyen. Alors, un sommet citoyen, c'était vraiment pour donner à voir que si la démocratie devait être rénovée, eh bien, elle le serait par les citoyens et les citoyennes. Cette démarche a amené plus de 850 Strasbourgeois à s'impliquer dans des ateliers où ils ont pu réfléchir à ce qu'il fallait faire pour rénover cette démocratie. Et à la suite de ça, il y a eu ce sommet citoyen qui s'est déroulé au Conseil de l'Europe, en présence du maire, du directeur général des services, j'y reviendrai parce que c'est vraiment très très important, et des citoyens et des élus. Et au cours de ce sommet citoyen au Conseil de l'Europe, nous avons pu prioriser les actions. Prioriser, c'est-à-dire que la matière était tellement dense qu'il nous aurait fallu 3 mandats pour tout pouvoir faire. Donc nous avons priorisé les actions et c'est là qu'est apparu le souhait des citoyens de participer à la prise de décision et en est né le budget participatif, mais également les pétitions citoyennes qui sont un moyen de faire entendre sa voix au sein du conseil municipal lorsque toutes les portes se ferment. Voilà.
Combien de signataires sur une pétition citoyenne ?
Alors, au bout de 500 signataires, une réunion est organisée avec les adjoints qui sont en charge de la thématique sur laquelle porte la pétition. Et si on n'arrive pas à trouver un accord, alors au bout de 2800 signatures, eh bien, un débat en conseil municipal se tient. Qui donne l'occasion, donc on interrompt le conseil municipal, le maire interrompt le conseil municipal, donne la parole aux porteurs de la pétition. Ensuite, les conseils municipaux peuvent poser des questions, enfin il y a un débat avec le porteur. Ensuite, on remet le débat, il y a de nouveau un débat entre les élus. Et puis, le cas échéant, cela peut aboutir à un vote. Tout dépend de la pétition, tout dépend de ce que souhaite faire le maire.
Il n'y a pas de petit sujet pour vous ?
Non.
Dans ce cadre-là ?
Non, vous voyez, les pétitions qui ont abouti, elles étaient portées par des femmes et des hommes avec un degré d'engagement très important. Parce que c'est pas simple d'obtenir 2800 signatures. Il suffit pas de mettre sa pétition sur le site participer.eu. Il faut vraiment s'investir. Il y a une pétition sur la protection de la zone verte qui a été portée par l'association Zona et le docteur Mater. Le docteur Mater était sur le pont tous les jours pour collecter les signatures. Voilà, donc je trouve que c'est bien aussi parce que ça donne à voir que la démocratie, c'est aussi un combat. C'est un combat de chacune et de chacun. S'il n'y a pas d'engagement des citoyens, eh bien, il ne peut pas y avoir de démocratie. Et c'est comme ça que, finalement, je me suis rendu compte que l'engagement citoyen, il était au cœur du projet de démocratie. Et c'est comme ça qu'après, par la suite, on a créé le mouvement politique Citoyens Engagés. Et tout naturellement, ces citoyens m'ont demandé lancer une liste. Et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui.
Donc ça s'est politisé, ces Citoyens Engagés qui au départ étaient, vous le disiez, des citoyens qui allaient rassembler autour de sujets divers qui peuvent toucher tout le monde, se sont politisés.
Exactement. Et on se rend compte, en fait, que cette politisation n'est pas le fruit d'une démarche intellectuelle, mais c'est le fruit d'une action qui est dirigée entièrement vers le bien commun. Et je ne vous cache pas que c'est aussi la crainte de voir tout ce travail qui a été accompli pendant ces 2 années, qui n'a pas été forcément soutenu par l'ensemble des conseillers municipaux, qui les ont également déterminés à être présent dans le débat politique, justement pour faire en sorte que tout ce travail qui s'est conclu quand même par l'adoption au conseil municipal d'un pacte pour la démocratie à Strasbourg, d'un budget participatif qui est aujourd'hui de 1% mais que je souhaite porter à 5% d'ici 2021, voire 10% après. Voilà.
Pour traiter ces questions qui sont montées par les citoyens, c'est ça en fait, c'est un budget propre qui sert ensuite à mettre en œuvre les projets qui sont le fruit de ces 500, 2800 signatures, etc. En fait.
Oui, le budget participatif, c'est vraiment le pouvoir du citoyen sur le budget de la collectivité. C'est 1 million d'euros là par an, donc la prochaine session c'est 2 millions mais pour 2 ans, qui sont mises à la disposition des citoyens. Et ce sont eux qui déposent des projets et ce sont eux qui votent, qui désignent les projets lauréats, sans aucune intervention de la collectivité, si ce n'est celle du contrôle de la recevabilité, le contrôle de la faisabilité. Mais ces contrôles, nous avons tenu à ce qu'ils soient toujours dans des instances tripartites, c'est-à-dire qui réunissent les élus, les agents de la collectivité et les citoyens. Et c'est la seule manière de fonctionner sur le mode du consensus. Je vous dis, pendant ces 2 années où nous avons travaillé ensemble avec les citoyens, nous n'avons été contraints d'avoir recours au vote qu'une seule fois. Chaque fois, les décisions étaient prises par consensus, et ce n'était pas des consensus par le bas, c'était vraiment l'adhésion à la solution qui allait satisfaire le bien commun. Et c'était une expérience extraordinaire qu'il est tout à fait possible, selon moi, d'étendre à l'ensemble de la collectivité. Et je pense d'ailleurs que, compte tenu des enjeux graves auxquels nous sommes confrontés, eh bien, je crois que nous n'arriverons pas à nous en sortir si nous ne mettons pas en place une gouvernance de ce type.
Donc en fait, votre programme, parce qu'il n'est pas encore tout à fait... en tous les cas, on n'y a pas eu accès, mais vous n'êtes pas la seule. Il y a pas mal de candidats pour lesquels ce n'est pas encore finalisé. C'est vraiment le cœur de votre programme, c'est la démocratie participative, c'est-à-dire mettre le citoyen... dans les instances de décision au niveau de la mairie et peut-être au-delà de l'Eurométropole, voilà.
Non, la démocratie, c'est le moyen d'arriver. C'est le moyen d'arriver. Si vous voulez, on part d'une vision et après on décline les axes du projet. La vision, c'est quoi? C'est que nous mettons en premier lieu la supériorité du vivant sur... les considérations économiques et financières. Et ça va impacter beaucoup de choix politiques.
Il y aura beaucoup de social, finalement, de votre
programme. Il y aura, évidemment,
c'est beaucoup de social. C'est ça qui vous inquiète, Chantal Cutajar. Vous disiez que la situation était grave. Vous avez évoqué les gilets jaunes tout à l'heure. Aujourd'hui, votre priorité et votre plus grande inquiétude, c'est le social. C'est quoi ? C'est la différence entre l'hypercentre et la périphérie. C'est la dégradation des quartiers. C'est le 31 décembre dernier. C'est quoi votre préoccupation et ce qui fait que vous avez eu envie de vous engager ?
Non, la préoccupation... Alors, je voulais peut-être quand même continuer à vous décliner les quatre fondements du projet pour pouvoir mieux après...
Je vous en prie, allez-y.
Voilà, donc le second, c'est la fraternité. C'est la fraternité parce que nous pensons que c'est la seule... que c'est sans fraternité, avec son corollaire qui est la laïcité, eh bien, nous ne parviendrons pas à construire ce vivre ensemble qui se délite dans des proportions très inquiétantes dans plusieurs de nos quartiers de la ville. Et cette fraternité, elle permet aussi de nous enrichir de nos différences. J'étais dans je fais campagne, et donc j'étais dans une réunion qu'on appelle des réunions d'appartement à Haute-Pierre, où il y avait une quinzaine de femmes qui étaient présentes. Et elles m'ont dit ces choses que je tiens à vous redire ici. Elles m'ont dit, lorsque nos parents et nos grands-parents sont arrivés en France, ils voulaient vivre en France. Ils ne voulaient pas recréer les ghettos. Or, notre politique du logement, et moi je le découvre, je n'étais pas en responsabilité, mais j'assume le bilan, hein, ce n'est pas un problème, hein, fait que nous parquons les personnes par nationalité, par origine dans les immeubles. Et ils m'ont dit également que leur souhait...
C'est-à-dire que les organismes qui sont chargés de l'habitat social placent les familles en fonction de leur origine.
Absolument, absolument.
Vous avez
absolument.
D'accord.
Oui, bah des exemples, il y en a plein. Il y en a plein.
L'objectif, c'est quoi ? C'est
que l'intégration, justement, venons-y. Parce qu'ils me disaient que leur souhait à elles, c'était de s'intégrer, de pouvoir intégrer leurs enfants. Elles étaient demanderesses de pouvoir parler et comprendre le français. Il y avait même une demande de s'insérer dans la culture alsacienne, apprendre l'alsacien. Et donc, c'est la raison pour laquelle, moi, je pense que renouer avec nos origines à Strasbourg est un facteur d'intégration très important. Et la nouveauté, c'est que je l'entends dire de la part de personnes qui viennent d'origines diverses. Donc, vraiment, je pense que cette fraternité qui permet de nous relier les uns aux autres, de nous enrichir de nos différences, elle repose sur la laïcité, parce que sans laïcité, nous n'y arriverons pas non plus. Et je crois que c'est vraiment la voie d'avenir. La troisième, c'est la probité. Et je tiens vraiment à le dire, la probité, parce que sans respect de la probité, vous ne pouvez pas non plus rétablir le lien de confiance entre les citoyens, les agents et les élus. Et enfin, c'est la participation. Vous voyez, je mets la participation à la fin, non pas parce qu'elle est moins importante, puisque vous pensez qu'elle est au cœur de mon projet, mais c'est vrai qu'elle est au cœur de mon projet, parce que sans cette participation qui est de la co-construction, là encore, nous ne pourrons pas faire passer les projets que nous portons. Et donc les axes, et du coup, découlent les axes de notre programme, qui est pour le premier, de réinventer la gouvernance donc, et de soigner l'identité singulière de Strasbourg, parce que Strasbourg ne pourra être le seul siège du Parlement européen, parce que je veux que Strasbourg soit l'unique siège du Parlement européen, si
Pardon,
elle ne
Chantal
retrouve
Cutajar
pas son identité.
De vous interrompre, mais j'ai entendu vos quatre axes de campagne. Alors,
Non, vous n'avez pas entendu les quatre axes. Vous avez entendu les quatre principes. Les quatre axes, c'est... réinventer la gouvernance, c'est lutter contre les inégalités pour s'attaquer aux racines de la violence. C'est reconnecter les Strasbourgeois à la nature pour enclencher la mutation écologique.
Je me disais aussi, vous auriez été la seule des candidates à ne pas aborder l'écologie.
Et c'est faire de la ville autrement pour plus de proximité et de solidarité. Là, vous avez mes quatre axes de
On a un temps limité.
Et voilà.
On va essayer de prendre un ou deux points peut-être par axe peut-être commencer par celui dont je pensais qu'il n'était pas excellent. Sur l'écologie, qu'est-ce que vous proposez, Chantal Cutajar?
Alors, je crois que on ne peut plus faire l'impasse ce que j'appelle la politique de l'autruche sur l'hypothèse d'un effondrement de la civilisation thermo-industrielle. Et donc, cet effondrement, il n'est pas d'hier. Il est annoncé depuis 1972 par le rapport Meadows, dont toutes les projections jusqu'à présent se sont réalisées.
Vérifiées. Ouais.
Elles se sont vérifiées. Et donc, ce rapport annonce que l'effondrement est annoncé pour 2020-2030. 2020-2030.
C'est maintenant.
Donc, on peut dire aujourd'hui, et je pense que personne ne peut nier que le risque existe. Et donc, si le risque existe, le maire, pour moi, a l'obligation de le gérer. Parce que je crois que sa tâche la plus noble, c'est celle de protéger les citoyens. Et c'est la raison pour laquelle je prône une politique non pas de transition écologique, parce que nous n'avons tout simplement plus le temps pour la transition, mais bien de mutation, de transformation, parce que il y a vraiment urgence. Et donc, nous devons nous donner les moyens dès à présent.
Comment, Chantal?
D'enclencher des changements. Alors d'abord, pour faire baisser la température et accueillir la biodiversité, eh bien, il faut sanctuariser la ceinture verte. Il faut sanctuariser la ceinture verte et développer davantage le concept de parc naturel urbain.
On interdit les constructions, plus de permis de construire.
Mais, écoutez, sanctuariser la ceinture verte, ça veut dire ce que ça veut dire. On ne construit pas sur la zone verte. Oui, on ne construit pas sur la zone verte. Parce que c'est notre poumon, parce qu'il y va de la santé des Strasbourgeoises et des Strasbourgeois, et au-delà d'ailleurs, et au-delà.
Oui, justement, il faut que ça s'inscrive dans un programme national ou européen. Au niveau local, l'écologie, est-ce qu'elle a un réel pouvoir?
Mais elle a le pouvoir essentiel. Parce que si on se met dans l'hypothèse, moi, je le gère comme un risque. Hein. L'effondrement, je le gère comme un risque. Je ne vais pas dire demain, il y a un effondrement et puis il faut tout révolutionner. Je dis qu'on a un risque d'effondrement, tout comme j'ai géré le risque d'attentat à Strasbourg. Donc, je perçois un risque et donc je réfléchis à la manière dont le faire. Bien sûr qu'il faut commencer ici, à Strasbourg. Parce que si le risque se réalise, mais il n'y aura plus rien à l'échelle de l'État. Donc, il faut bien nous organiser de manière à être autonome alimentairement, autonome sur tous les champs nous permettront de survivre.
Alors, ne pas construire plus, Chantal Cutajar, ça permet de limiter. Mais qu'est-ce qu'on fait sur l'existant aujourd'hui? Comment on peut transformer ce qui existe pour essayer d'améliorer les choses et pas se retrouver avec des températures de 50 degrés comme on nous les prédit pour les étés prochains, voilà, à Strasbourg?
Ah bah, il faut végétaliser massivement Strasbourg et faire de Strasbourg un grand parc urbain.
Voilà, c'est-à-dire on met de l'herbe sur les trottoirs.
Des plantations de mini forêts partout dans l'espace urbain, de la taille d'un terrain de tennis. Ça a une croissance extrêmement rapide. Ces mini forêts, elles ont une densité, elles sont 30 fois plus denses que les forêts classiques. Donc elles absorbent beaucoup plus de CO2. Elles absorbent 30 fois plus de CO2 que les forêts classiques. Il faut désartificialiser les sols et multiplier les plantations, des potagers, des prairies, des arbres fruitiers. Voilà, il faut cesser
de bétoniser. On fait de Strasbourg un grand jardin, finalement.
Oui, il faut faire de Strasbourg, il faut végétaliser massivement Strasbourg. Voilà. Alors, ce n'est pas du jour au lendemain. Mmh. On ne va pas faire ça du jour au lendemain. Et c'est pour ça que le diable est toujours dans les détails. Je n'y arriverai que si j'ai ma chambre de la participation citoyenne qui est au cœur de mon projet. Parce que cette chambre de la participation citoyenne, ça va être le lieu de construction de tous les consensus. Parce que comment ça fonctionne? On commence par partager un état des lieux. Si tout le monde est convaincu qu'il y a un état des lieux, on partage une vision. Et après, il ne reste plus qu'à décliner le chemin. Et c'est comme ça qu'on construit les consensus. Donc, il nous faut cette chambre de la participation citoyenne. Donc, moi, je ne prendrai personne par la force. Je n'imposerai rien. Je mettrai simplement les Strasbourgeoises et les Strasbourgeois face à des choix que nous devons faire collectivement. Parce qu'in fine, qu'est-ce que nous voulons pour nos enfants ? Qu'est-ce que nous voulons pour nos enfants ? Qu'est-ce que nous voulons pour nous ? L'espérance de vie à Strasbourg est 8 à 10 mois de moins qu'ailleurs. Bien, donc, bien sûr, ça commence par le local.
8 à 10 mois de moins qu'ailleurs, ce sont les chiffres officiels ?
Absolument, ce sont des chiffres officiels.
Du fait de la pollution ?
Du fait de la pollution.
D'accord.
La pollution particulière.
Alors, est-ce que vous voulez décliner un autre de vos points de programme ? On a parlé de l'écologie, on vous a entendu sur ce point-là.
Oui, je voudrais
d'aborder un autre point.
Oui, vous parlez de la lutte contre les inégalités. Parce que
c'est quelque chose qui est important pour vous,
très
ça.
Très important.
Hein. Bah oui, vous avez parlé des quartiers. On sent. Alors allez-y, ouais. Ça...
Je pense que c'est très très important parce que c'est de cette manière-là.
En même temps, vous parlez de laïcité sur des quartiers où on dénonce le communautarisme. Alors comment on fait pour faire entrer la laïcité dans des quartiers qui sont de plus en plus communautaires, en fait, c'est ça un peu.
parce que c'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Absolument. Bah, écoutez, soit on y arrive, soit ça va être le chaos. Hein. Parce que les racines de la violence, c'est la lutte contre les inégalités. Et il faut lutter contre les inégalités pour s'attaquer aux racines de la violence. Et là, on a une vision assez claire des choses. Je crois qu'il faut développer le soutien à l'éducation et à la parentalité pour établir l'égalité des chances. Je pense que le déterminisme social n'existe pas. Ils sont créés et ils sont entretenus par des politiques qui ne se soucient ni d'égalité ni de fraternité.
On met des éducateurs dans les quartiers, on essaie d'aider les familles concrètement, ça se manifeste.
Absolument, il faut une maison des parents à l'intérieur de chaque quartier. Ma chambre de la participation citoyenne sera déclinée dans chacun des quartiers pour bien l'instaurer à l'échelle des quartiers. Il faut soutenir les parents dans leur rôle éducatif. Donc une maison des parents au cœur des quartiers me paraît indispensable et c'est la demande. Vous savez, en 2008, quand je faisais campagne, il y avait ces discours sur la sécurité et les gens vous demandaient de la sanction, etc. Aujourd'hui, on n'est plus dans ces discours-là. Les gens ont compris que ce n'est pas avec la répression qu'on arriverait à régler les problèmes. Et ça, c'est très, très nouveau. En revanche, ils sont en demande et ils nous disent il faut aider les parents. Vous ne pouvez pas demander, on dit toujours, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a.
La plus belle femme du monde.
Du monde, voilà. On ne peut pas demander à des parents de faire des choses... de donner ce qu'ils eux-mêmes n'ont pas reçu. Donc il y a un impératif. Et très honnêtement, c'est dans l'intérêt de chacune et de chacun de s'y attaquer. Donc une maison des parents, il faut permettre aussi d'aider les associations de parents d'élèves, il y en a aussi un peu partout, qui ont aussi des projets et qui sont en lien avec les parents. Développer des initiatives qui existent déjà mais qui ne sont pas du tout soutenues parce que ce sont des initiatives qui sont prises par les citoyens isolés, les cafés parents dans les écoles, ça existe, c'est positif, ça fonctionne très bien. Et puis il nous faut former les citoyens de demain. Il faut nous former les citoyens de demain. Vous parliez de problématiques, parlons-en, moi je veux bien parler des véhicules brûlés. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons fait les retours d'expérience avec le préfet. Nous savons qui sont les auteurs. Nous savons ce sont des jeunes qui ne sont pas du tout désinsérés. Ils ne sont pas désinsérés. Ils sont dans les centres socioculturels. Ils sont des jeunes de 12 ans, 13 ans.
Ils seront peut-être dans vos maisons de la citoyenneté demain?
Eh bien oui, ils seront dans la maison de la citoyenneté demain. Et je pense que là aussi, il y a beaucoup à construire. Le temps est imparti. Hein. Il y a beaucoup à construire autour du sport, autour de la culture. Il faut soutenir les clubs sportifs qui ont des projets. Ils sont insuffisamment soutenus. Il faut... Et d'ailleurs, c'est pour ça, je vais vous parler de mon projet phare par rapport à ça. Les Olympiades des quartiers. Ouais. Un projet.
En les valorisant, alors plutôt que qu'en le montrant du doigt.
Mais c'est construire dès demain Je vais d'ailleurs proposer au maire de Strasbourg qu'on le mette en place dès demain, de construire ce projet avec l'ensemble des clubs sportifs pour qu'il y ait... il nous faut bien une année. Et le 31 décembre, qu'est-ce qu'on fera ? Ah ben, le 31 décembre, eh bien, il y aura les finales de toutes ces Olympiades. Et le 31 décembre, il y aura un grand feu d'artifice et on n'aura pas besoin de faire brûler des pétards.
Pour faire parler de sa cité.
Exactement. Exactement.
Très bien. Je vous écoute et j'ai le sentiment que votre programme, ce que vous souhaitez faire, c'est presque trans-parti politique ou cross-parti politique. Finalement, ça pourrait presque s'implémenter dans les partis traditionnels. Est-ce que vous serez amené ou vous souhaitez travailler avec l'un ou l'autre éventuellement des maires, si vous n'êtes pas maire de Strasbourg, parce que je rappelle quand même que vous êtes candidate. Est-ce que vous souhaitez que votre voix porte et donc intégrer une équipe municipale, et dans ces cas-là, j'anticipe pas le deuxième tour, mais vous avez une préférence particulière et quelqu'un avec qui, ou une équipe avec laquelle vous aimeriez travailler à l'avenir ?
Je n'ai pas de préférence, très honnêtement.
J'ai bien dit, si vous n'étiez pas maire de Strasbourg.
Voilà, hein, vous êtes gentil.
Je ne me projette pas autrement. Et
oui,
voilà.
Oui, oui. Il faudrait que ce soit compatible avec la vision. Franchement, je pense que je n'ai aucune envie d'aller dans aucune équipe qui ne mettrait pas en mesure de co-construire notre projet avec les citoyens. Ça fait 2 ans et demi que je m'y attelle. Je sais que ça fonctionne. Je sais que c'est la seule voie pour relever tous les défis. S'il n'y a pas de candidats qui sont prêts à partager cela, une chambre de la participation citoyenne tripartite avec une représentation des élus, y compris les élus de l'opposition. Parce que ça n'est pas parce qu'on est dans l'opposition que l'on n'a pas de bonnes idées, mais on va avoir à affronter des crises graves. Nous avons besoin de chacune et de chacun.
Alors moi, quand je vous écoute, Chantal Cutajar, je pense à Nicolas Hulot, parce que je me dis, vous auriez peut-être dû, ou vous pourriez peut-être faire une charte de la Chambre de la démocratie citoyenne et contraindre peut-être, hein, enfin en tous les cas, inviter, on va le dire, c'est un mot un petit peu moins fort, les différents candidats y adhérer, de la même façon que Nicolas Hulot avait fait une charte de l'environnement, et ce qui permettrait peut-être de déployer ce programme qui est le vôtre, qui est très concret finalement, hein, j'ai envie de dire, voilà, on est moins dans le discours politique que dans les mains dans le cambouis, j'ai envie de dire. Hein, voilà, donc... Peut-être
je retiens votre idée. Mais je veux dire qu'il existe le pacte pour la démocratie à Strasbourg. C'est un pacte vraiment très important parce qu'il engage, les citoyens, il engage les élus et il engage les agents de l'administration. Et ce pacte est de nature à révolutionner. Tout le monde ne s'est pas encore bien rendu compte du pouvoir qu'il pouvait avoir. Puisqu'en effet, il y a un dispositif qui s'appelle le comité d'éthique, qui peut être saisi par quiconque, le citoyen, un agent, un élu, qui considère que le pacte n'a pas été respecté. Et moi, ce que je veux faire aujourd'hui, modifier...
Les gens du terrain, finalement. Le maillage territorial des agents municipaux qui vous permet de remonter l'information et, le cas échéant, aussi de décliner ce que vous faites au niveau local, c'est ça ?
Non. Le comité d'éthique, c'est un comité donc tripartite qui reçoit les doléances des citoyens qui considèrent que le pacte n'a pas été respecté. Dans ce pacte, il y a quoi ? Il y a l'affirmation du droit à la participation. C'est à minima le droit à l'information, le droit à la consultation, le droit à la participation et le droit à la co-construction. Donc il faut décliner, sachant que la co-construction, c'est ce vers quoi nos concitoyens veulent que nous allions. Mmh. Hein ? Et donc ce comité d'éthique rend des délibérations, il rend des recommandations. Aujourd'hui, ces recommandations, le maire en fait ce qu'il veut. Moi, je m'engage à respecter les recommandations qui seront rendues par le comité d'éthique. Et il y a plusieurs recommandations qui ont été rendues concernant la transparence, la communication des données. Il est absolument anormal que dans une collectivité comme la ville de Strasbourg, lorsque vous demandez un document qui est communicable, on ne vous le communique pas, que vous saisissez la CADA pour qu'on vous le communique, que la CADA rend une décision favorable, on ne vous le communique toujours pas. Vous saisissez le juge administratif qui donne raison à la CADA et on vous le communique toujours pas, ça n'est pas digne d'une démocratie et c'est à cela que je veux mettre un terme.
Chantal Cutajar, merci infiniment. On a été ravis de vous recevoir ici avec Patrick Cohen, le président de la radio. Donc, je rappelle, vous êtes tête de liste des citoyens engagés et vous êtes candidate aux élections municipales de Strasbourg. Ce sera le premier tour le 15 mars et le 22 mars pour le deuxième tour. Merci à vous.
Merci. Merci.